Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est encore presque janvier en novembre, comme disait Paul tout à l'heure. On n'aime pas ça, on est comme pas prêt, hein? C'est pas grave. On va essayer de vous faire passer une bonne matinée en notre compagnie. On a un grand sujet à discuter pour la prochaine heure. On va parler d'obésité. Est-ce que vous êtes préoccupé, vous, par votre poids? Mais en deuxième heure, je vous le dis tout de suite, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui vont vouloir suivre cette discussion que je vais avoir avec le journaliste français Stéphane Alix. On l'a déjà reçu à l'émission, il avait publié un livre qui s'appelle Le Test. Il avait vraiment fait un test après la mort de son père, une espèce d'expérience pour voir si les médiums avaient raison de dire qu'ils pouvaient communiquer avec les morts. Or, depuis, il y a eu énormément de témoignages sur des signes de l'au-delà et il poursuit ses expériences là-dessus. Il vient de publier un livre qui s'appelle Après et après, quand l'au-delà nous fait signe. Vous avez déjà été nombreux à m'envoyer quelques commentaires là-dessus en me disant que vous aussi, vous avez eu des signes de proches décédés. Alors, on aura cette discussion-là tout à l'heure. Et puis, on terminera l'émission avec le conteur Fred Pellerin qui viendra nous raconter encore plein d'histoires. On se tanne pas. Lui, il pourrait nous lire le bottin, nous le chanter, nous le conter. On serait bien contents de ça. Mais parlons d'abord d'obésité parce que c'est fascinant de voir comme il y a une espèce de contre-discours. Puis, vous me direz si vous êtes d'accord. Mais moi, j'ai l'impression qu'on parle des deux côtés de la bouche. C'est le cas de le dire. Quand il s'agit de manger, des fois, c'est ses bas qu'on mange, puis des fois, c'est ses émotions. Puis d'autres fois, ben, c'est trop de malbouffe. Toujours est-il que l'Institut national de santé publique du Québec vient de nous faire un portrait pas très encourageant de notre tour de taille. Quand on regarde les 40 dernières années, on en arrive aujourd'hui à ce qu'un enfant sur 10, finalement, c'est ça le constat, un enfant sur 10 au Québec, un petit Québécois sur 10 est obèse. Et le quart souffre d'embonpoint. Il y a 60 % des adultes au Québec qui sont en surpoids. Et il y en a 25 % un sur quatre. Un adulte sur quatre au Québec qui est obèse, carrément obèse, avec tout ce que ça veut dire de problème, ne serait-ce que de diabète. C'est effectivement une pression sur votre santé. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde, je vais vous présenter mes invités, qu'on aborde cet aspect-là aussi. C'est pas juste de parler du poids, mais c'est aussi de parler de la santé, parce que je pense que là, on a peut-être une accroche intéressante. Avec nous, elle est chercheure à l'Institut national de santé publique du Québec. C'est entre autres Chantal Blouin qui a fait partie de ce comité d'études sur l'obésité pour essayer d'expliquer pourquoi finalement l'obésité est à la hausse. Bonjour Madame Blouin.
Bonjour.
Je vais vous présenter mes autres invités, puis je vais vous laisser la parole juste pour que vous nous replaciez un peu en contexte votre étude. On a en studio avec moi Robert Savoie, qui est conférencier. Il a eu pendant longtemps cette lutte là de perdre du poids, toujours un peu en surplus de poids, Robert. Hein?
Tu trouves?
Il a perdu plus de 1200 livres dans sa vie. On va en parler tout à l'heure. Geneviève Saint-Germain est avec nous, journaliste, auteur, toujours préoccupée par son poids. C'est un espèce de combat de vie pour Geneviève aussi. Merci d'être là. Mathieu Bédard a perdu 100 livres. Il réussit à se maintenir, mais c'est quelque chose, Mathieu. Hein?
Alors, c'est un combat tous les jours.
On va en parler avec vous, mais Chantal Blouin va nous remettre un peu en bouche, c'est le cas de le dire, cette étude que vous avez faite sur l'obésité, Mme Blouin, et qui conclut que ça ne s'améliore pas, notre affaire.
Non, pas encore, mais on n'espérait pas envoyer un message pessimiste, c'est-à-dire que nous, on voulait comprendre le pourquoi. Pourquoi ça, on a doublé les prévalences d'obésité, comment on s'est rendu là à 10 % d'obésité chez les enfants, comme vous l'avez bien dit. Et ce qu'on a constaté, dans le fond, c'est que on a vu des changements de société qui ont fait que c'est devenu difficile d'être actif physiquement au quotidien et de bien manger. Puis ça, c'est vraiment pas une seule cause. Là. Il y a toutes sortes de facteurs. Puis c'est ça qu'on voulait illustrer avec la ligne de temps.
Ce que vous dites, en fait, c'est que on pense souvent que c'est qu'une question de volonté, puis que t'as juste à moins manger, puis à manger santé, puis ça va être fait. Mais dans le fond, ce que vous nous montrez, c'est que les sources de l'épidémie d'obésité, parce que je pense qu'on peut parler d'une épidémie là, avec les taux observés, ce n'est pas que dans l'assiette des Québécois. Mais c'est sûr que ça passe aussi par là.
Oui, évidemment, mais on pourrait pas expliquer l'augmentation qu'on a connue depuis 40 ans par une épidémie de mauvaise volonté. Hein?
Non.
Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui a changé dans notre société. Puis nous, ben, on observe par exemple, ben, de plus en plus de gens, la majorité maintenant, on a un travail qui est très sédentaire. Donc, une grande partie de notre journée, on est assis, que ce soit au bureau ou dans un camion si on est camionneur, toutes sortes d'emplois qui demandent pas d'activité physique. Et donc, déjà, là, on part avec un déficit là, dans notre journée pour être actif quotidiennement.
Oui. Il y a l'étalement urbain aussi qui fait en sorte que les gens passent plus de temps, comme vient de vous dire, dans leur voiture, puis on va partout, on est assis, on bouge moins. L'offre alimentaire aussi, vous êtes intéressé à ça, parce que vous dites aujourd'hui, c'est pas forcément des éléments nutritifs, mais c'est des éléments qui ont tendance à, entre guillemets, nous bourrer, nous remplir, mais c'est pas forcément là qu'on devrait aller se nourrir.
Ben exactement, on est exposé à une offre alimentaire là vraiment un peu intéressante dans beaucoup de commerces de restauration rapide, par exemple. Ouais. Là, c'est de l'offre qui est très élevée en sodium, en gras saturé, en sucre. Donc, ça facilite pas les choix sains d'être entouré de cette offre-là au lieu de, disons, si on avait des dépanneurs fraîcheurs où on arrive puis il y a des fruits et légumes devant nous à la caisse au lieu des autres collations qu'on nous offre. Ouais. Quand on va, disons, au dépanneur, ben ça changerait qu'est-ce qui est facile de faire comme choix dans notre vie quotidienne.
Puis on nous vend toutes sortes d'affaires au-delà de l'aliment, on nous vend des jouets avec. Vous avez vu ce matin le recours collectif contre McDonald's qui vend des jouets aux enfants d'abord. Je veux dire, c'est comme les petits les œufs aussi, là, Kinder Surprise, avec des petits jouets dedans. Là, tu l'achètes pour le petit jouet. Il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Chantal, vous me permettrez d'aller vous faire un petit tour de table rapide après ce que vient de nous dire la chercheure de l'Institut national de santé publique. Et les raisons pour lesquelles on est gros ou en surpoids, comment vous avez vu ça, Geneviève?
Ben, c'est évident que c'est multifactoriel, mais il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Moi, quand j'entends le mot malbouffe, je veux bien. On dit malbouffe, les restaurants de fast-food et tout ça. Bon, il y a aussi ce que je remarque beaucoup, c'est chez les jeunes filles, les adolescentes, elles sont beaucoup plus rondes qu'on était. En général, je suis toujours frappée. Mais c'est parce qu'il s'est créé comme un réflexe d'aller manger dans ces genres de restos-là. Mais il n'y a pas que ça. Quand les gens entendent malbouffe, ils entendent fast-food, McDonald's, tout ça, mais tous les étalages de nos épiceries qui sont pleins de craquelins, de produits frelatés, de produits transformés, de sucre caché, de sel caché, d'huile de palme et d'un paquet de cochonneries que les gens qui sont pressés n'ont pas le temps de regarder. Les gens les regardent de plus en plus, les boîtes, là.
Ouais.
Mais je pense que pour ce qui est de la jeune génération, tous ces aliments là, préparés, là, tout ce qui est transformé, je pense que ça a eu un effet immense sur l'obésité des jeunes et des moins jeunes.
Mm-hmm. Ben, tu sais, les jeunes boivent beaucoup de café, les cafés à 5$, là, avec
plein de crème fouettée. Les cafés à 2000 calories.
Ben oui, ben oui, c'est qu'on l'oublie, mais t'en bois 3-4 dans ta journée, là. C'est quelque chose, Robert?
Ben, moi, ce que j'ai
goût... Oh, ça vient de te parler, ce que je viens de dire, là. J'ai vu ta face.
Ouais.
Est-ce que tu fais un petit peu trop usage de café calorique?
Écoute, quand McDonald's t'envoie des cartes de fête parce que t'en manges beaucoup. Tu sais, j'ai fait la farce avec ton mets hier.
Es-tu sérieux?
Non, c'est pas vrai.
Ah bon, okay.
Mais par contre, c'est mon mets préféré dans Malbouffe.
C'est vrai?
Oui, mais j'ai arrêté de blâmer McDonald's. J'ai décidé de revenir à la base. C'est quoi l'amour de soi? C'est là que je trouve qu'on doit mettre plus d'énergie. On met tellement d'énergie à dire aux autres comment est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce qu'ils devraient vendre, comment est-ce qu'ils devraient placer leurs choses. Je trouve qu'on perd notre temps. On doit éduquer les gens à apprendre à s'aimer.
L'exemple, tu vois, là, pour Chantal Bouin, la chercheure qui cherchait des raisons là, pour expliquer l'obésité à la hausse, la restauration rapide, l'étalement urbain, l'offre alimentaire. Toi, tu dis oui, mais ça part de nous.
Ça part de nous. Ça part de soi. C'est à nous de faire des choix responsables.
Oui, j'aimerais entendre Mathieu Bédard là-dessus.
Absolument. Et même, moi, je dirais, si je pense à ma propre expérience, pour moi, l'obésité, c'est un problème d'ignorance. Je savais tout simplement pas que je mangeais trop. J'ai jamais été un grand mangeur de fast-food ou de cochonneries, mais je mangeais en quantité beaucoup trop importante. Et si on m'avait posé la question, j'aurais dit non, je mange autant que tout le monde. Je m'en rendais tout simplement pas compte. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un problème d'ignorance.
Mais c'est donc, Chantal Bouin, l'ignorance, est-ce que pour vous, c'est un facteur? Est-ce que c'est tombé dans votre étude, puis vous vous êtes dit, on n'est pas pour mettre ignorance, ça paraîtrait pas trop bien?
Non, ben,
c'est... C'est sûr que se faire dire ça, ça fait mal.
Mais disons que on sait qu'en effet il y a des mesures d'éducation pour apprendre réapprendre à cuisiner puis à bien manger qui font partie de ce qu'on devrait faire, mais ça, nous, on trouvait qu'on en parlait quand même souvent, tu sais, des interventions plus au niveau de l'individu, puis sont nécessaires, mais ce qu'on apprend là en regardant les travaux sur ce sujet-là, nous, c'est que c'est pas suffisant au niveau là de l'ensemble de la population si on veut renverser la vapeur, vraiment changer les choses au niveau de toute la population. Ben, il faut aller au-delà de ça, mais vous avez raison que c'est nécessaire là de bien comprendre c'est quoi une saine alimentation puis les quantités. Ça c'est clairement, ça fait partie de ce qu'il faut faire.
Mais est-ce qu'il y a une composante, une grande composante responsabilité personnelle? Parce que vous avez commencé en disant, c'est sûr que c'est pas dû à la mauvaise foi des gens, mais en même temps, cette composante responsabilité personnelle dans ce qu'on met dans sa bouche, est-ce que vous l'avez un peu étudiée dans le cadre de votre étude?
Ben c'est sûr que en fin de compte le choix disons alimentaire demeure toujours un choix individuel à la fin, mais ce qu'on constate c'est que ces choix-là sont conditionnés par tous les contextes sociaux. Donc c'est sûr que il y a toujours une composante individuelle, mais on peut pas facilement là la départager du contexte social dans lequel on vit. Là.
Puis ça devient difficile de résister. Ça devient difficile de résister.
Puis, ben oui, c'est moi, si tu m'offres des fruits ou des beignes en collation, je vais être plutôt tentée par les beignes, mais si tu m'offres seulement des fruits, je vais prendre des fruits. Ouais. Donc, c'est l'architecture de choix qu'on appelle. Qu'est-ce qu'on met devant moi ou qu'est-ce qui est le choix facile?
Je veux faire attention aussi, c'est la responsabilité personnelle, puis personne va perdre du poids puis il va être en santé autrement qu'en faisant un travail sur lui. Bon, ça réglé. Faut faire attention aussi à la culpabilisation quand on dit fait. C'est votre choix personnel. Ouais. Quand on sait par exemple que aujourd'hui pour que des ados soient pas tentés par les McDo de ce monde, il faut quasiment que les parents soient des dogmatiques finis de la bonne santé.
Puis même à ça,
je veux dire, parce que l'offre est tellement présente. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces nourritures-là, je veux pas parler contre l'industrie nécessairement, mais certains de ces aliments-là, ça a été prouvé, sont faits pour créer des addictions. Addiction au sucre, addiction à certaines molécules qu'ils ont là-dedans qui font que les gens retournent constamment et ont le goût de manger ça au lieu de manger une bonne salade verte.
C'est comme la cigarette.
C'est marketé et je pense que c'est fait de la même manière et ça, les gens sont pas si conscients que ça. Oh, c'est pas grave, je vais manger un petit hamburger aujourd'hui. Ah, ben oui, demain, je vais prendre une petite frite. Puis,
exact.
Ça finit plus, là, t'as juste le goût de manger ça, finalement.
Je vais vous laisser aller, Chantal Blouin, et on va aller à la pause, mais vous parliez d'un taux, évidemment, c'est peut-être les plus pessimistes qui voient ce scénario-là, mais taux d'obésité en 2030, c'est quand même pas si loin, hein, c'est dans 12 ans, 26 %.
Oui, non, c'est les projections si la tendance se maintient. Mais peut-être en terminant, je voulais souligner quand même que peu importe notre poids, si on est plus actif et si on améliore la qualité de notre alimentation, on améliore notre santé. Fait que oui, le poids, c'est un facteur qui influence notre santé, mais on peut être aussi actif puis améliorer la qualité de notre alimentation, comme disait la dernière personne, là, moins de produits transformés, être plus conscient des choix à l'épicerie aussi. Tout ça, on améliore notre santé, même peut-être si on voit pas encore beaucoup de changements sur notre poids, là.
Ouais, on devrait l'encourager, ça, d'ailleurs. Mm-hmm. L'alimentation santé est pas tellement encouragée. Merci beaucoup, Chantal Blouin, chercheure à l'Institut national de santé publique du Québec. On faisait référence, donc, à cette étude qui vient d'être lancée où on nous trace ce portrait assez peu encourageant de notre tour de taille. Je vous rappelle, 1 enfant sur 10 au Québec est obèse. Le quart des adultes l'est également et à peu près, et 60 % des adultes sont en surpoids. Alors, c'est sans doute peut-être votre cas où vous avez certainement des gens autour de vous là, qui aimeraient bien trouver des façons de maigrir. Il y a beaucoup de monde aussi au régime au Québec, des gens qui se privent. Beaucoup de femmes aussi, c'est peut-être plus féminin, les gars, vous me direz, mais je pense que de plus en plus les hommes sont conscients de ça aussi. La preuve, on en a deux aujourd'hui nous. Là.
Mais pas de régime, pas d'amaigrissement, là, ça, il faut arrêter aussi. Là,
On va revenir là-dessus après la pause. Je veux vous entendre, dites-moi comment vous vivez ça. Là. Est-ce que vous êtes préoccupé par votre poids? Puis en même temps, il y a tout l'autre discours qui nous dit « Attention, faut pas parler là contre le monde qui est un peu gros parce que ça se fait pas. » 514-790-9850. Sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Sans surprise, vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Sylvain, bonjour. Merci de nous appeler. Est-ce que vous êtes préoccupé, Sylvain, par votre poids, comme pas mal de monde, hein, je pense?
Bien, encore aujourd'hui, oui, malgré la perte de poids, c'est un combat de tous les jours. Tu peux pas oublier que tu as déjà parti d'en haut pour faire tout ce travail-là, puis perdre beaucoup de poids. Ça reste avec toi le reste de ta vie. Tu sais que tu as déjà fait l'effort, puis Et tu veux pas leur vivre une deuxième fois, fait que les sacrifices sont toujours là, mais c'est pas des sacrifices à en devenir obsessif, c'est plutôt continuer les bonnes habitudes, continuer à s'entraîner, puis ça marche bien la santé là, donc il faut juste pas débarquer de ce petit train là.
Fait que vous, là, c'est vraiment comme une entreprise de vie là, pour vous là. Je pense que vous avez perdu 100 quelques livres, 130 livres. Wow.
130 livres environ un an, oui. Avec un petit tour au bureau au docteur, puis la réalité qui était que j'étais rendu à 14, 15, 16 pilules par jour, diabète, cholestérol, pression, tout va ensemble.
Ça,
là,
c'est
puis,
ça.
Attacher ses souliers, ça devient du sport. Un m'emmener à 37 ans, j'ai dit, ben là, j'en ai le rôle pompon, là, ça n'a pas d'allure. Puis tout bien une pilule, ben le train déraille, t'as mal au ventre, tu fais à l'envers. Tu peux pas, t'as des pelules pour les pelules. C'est plus des farces. Les problèmes de santé, t'es trop évident. Puis le médecin, quand il te dit que ton cholestérol, je sais pas trop comment ça fonctionne, les triglycérides, t'es à 37, puis il faut que tu sois en bas de 4, là, puis t'es à risque, t'es diabétique, il faut que tu sois en bas de 2. Ben dans 2 ans, tu vas boucher, puis on va te déboucher. C'est agréable ça, entendre ça. Fait que,
vous avez eu peur finalement. Vous avez eu peur pour votre santé.
Oh, oui. Mm. Oh, oui, à 37 ans, une crise cardiaque, ça me tente pas trop.
Aujourd'hui, vous dites que ça fait un an de ça que vous avez maigri.
Non, ça a pris ma perte de poids après un an. Moi, c'était environ à 36-37 ans que j'ai eu qu'on m'a dit tout ça. Aujourd'hui, j'en ai 43. Puis,
et vous avez maintenu 130 livres en un an, là, c'est énorme.
Ça se fait facilement.
Je peux pas expliquer le comment. Comment que j'ai fait pour me rendre aussi bas que ça. Je peux pas expliquer que j'ai aucune chair molle. J'ai peut-être 5 vergetures. Ma perte de poids, c'est sûr que je me suis entraîné à tous les jours.
Ouais.
Et j'ai fait beaucoup de cardio, mais j'ai fait aussi beaucoup de musculation. Puis moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu fais beaucoup de cardio, tu perds du poids, puis tu perds de la masse musculaire, mais si tu continues à t'entraîner, puis tu gardes ton tonus au maximum, c'est sûr que tu vas rapetisser, puis oui, tu vas perdre la force, parce que quelqu'un de 300 livres, malgré qu'il est bien enrobé, il est quand même fort.
Sylvain, avez-vous réglé vos problèmes de santé, cholestérol, tout ça?
Aujourd'hui, mon cholestérol, il est en bas de 2, mais c'est une petite pilule à la vie, mais c'est une petite pilule le soir, juste pour être s'assuré. Puis mon diabète, c'est une petite pilule à la vie, gros comme une aspirine de bébé à tous les matins, puis j'ai accepté que ça va être de même, puis je me refais tout le temps tester, puis...
Sylvain, bravo!
Ça ressemble tellement
Mathieu,
à mon histoire.
Mathieu, c'est ton histoire un peu, c'est ça?
Mais même moi, j'ai perdu un petit peu moins de poids, mais c'était grosso modo la même affaire. Je prenais pas 14 pilules, mais c'est moi aussi une visite chez le médecin qui m'a un petit peu fait peur, et j'ai perdu beaucoup de poids assez vite. Moi, 100 livres, ça a été en 10 mois à peu près.
Ouais.
Et je sais que sur papier, ça a l'air complètement fou. Là. Les gens se disent souvent que j'ai dû faire quelque chose de complètement déraisonnable, mais non, j'ai juste suivi les conseils des nutritionnistes et autres. Et même chose, je faisais de la musculation. J'ai l'impression que ça m'a aidé, mais ensuite...
Il faut se dire aussi que quand on a beaucoup de poids à perdre, là, ça a l'air des gros chiffres, 100 livres, tout ça, ça va très vite. Dès que tu modifies un peu ton alimentation, tu le vois, là, c'est presque, entre guillemets, magique. Là. Puis il y a toutes sortes de façons.
Absolument. Et ça a été les 10 dernières livres qui ont été les plus difficiles à perdre.
C'est exactement.
Mais moi, je crois beaucoup à la génétique. Parce
c'est un facteur, c'est sûr.
Aujourd'hui, j'ai l'air d'un petit jeune de 30 ans. Puis musculairement, j'ai un bon coffre. Là.
Bon.
Ça passe. C'est comme j'aurais fait du sport toute ma vie, mais... Le monde du sport, là, ça s'appelle Nintendo, PlayStation.
Ah, ben il y a ça aussi. La chercheure, tout à l'heure, elle a oublié ça dans sa liste. Là. Merci beaucoup, Sylvain. Bon courage, lâchez pas. André, bonjour. Vous avez déjà perdu 100 livres, mais vous dites que vous en avez un autre 100 à perdre.
Oui, actuellement, je pèse 270 livres. J'ai 64 ans. Un peu hérédité familiale, puis problème émotif. Pour combattre ça, qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'en arrivant du travail, j'allais faire mon vélo, 1 heure, 2 heures de vélo, puis j'ai décidé, en cours de route, j'ai dit pourquoi je le ferais pas pour aller travailler.
Mm-hmm.
Fait que j'ai fait Montréal-Chambly en vélo quasiment tous les jours pour aller travailler. Mais là, à 64 ans, c'est sûr que les articulations sont un petit peu plus fragiles, fait que je coupe la moitié du trajet, mais étant émotif... À un moment donné, sans trop le savoir, on dirait que c'est des réflexes émotifs. T'as tendance aussi à aller vers le sucre ou des compensations émotives.
Ouais. Mais merci, André. Bon courage, Geneviève, justement.
Ça, c'est un facteur extrêmement important, ouais. Puis on le dit depuis longtemps, puis on le dit en rien, même. On mange ses émotions, on mange tes émotions. Quand t'es contente, tu manges. Quand t'es mécontente ou triste, tu manges. C'est possible. C'est une façon de coper avec des émotions.
Tu l'as fait, toi?
Ben oui, c'est la bataille d'une vie, je veux dire. Moi aussi, j'ai perdu beaucoup de poids à un moment donné et tout ça. Et ça revient parce que c'est ton mode de réaction. Par rapport aux événements, il y en a que c'est le travail, il y en a que c'est la dope, il y en a que c'est l'alcool. Moi, je considère que mon rapport aux aliments est, en toute proportion gardée, là, le même type de rapport parce que je me vois aller. Je suis capable de me regarder aller. Ce qui est fascinant aussi en même temps, c'est que quand tu te mets à faire attention, entre guillemets, vraiment, puis à imposer une discipline, cette discipline-là devient très facile à la longue. Moi, j'ai trouvé ça difficile. D'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, je me dis, mon Dieu, on dirait que je suis plus capable de me remettre au régime. Il y a une question d'âge aussi là-dedans. Il y a une question de certains médicaments qu'on prend qui nous font prendre du poids de toutes sortes de manières. Puis il y a aussi le fait d'être une femme de plus de 50 ans. Bon, tout ça, là, ça joue. Mais il faut se rappeler que cette discipline-là, là, je pense que tu vas être d'accord avec moi, est même pas si difficile que ça à prendre. En même temps, il y a beaucoup de femmes qui disent aujourd'hui, ils vont-tu arrêter de nous écœurer avec notre poids? On a-tu le droit d'avoir le poids qu'on veut? Ça, moi, je suis assez d'accord. Ils vont-tu nous laisser la liberté? Parce que les femmes sont beaucoup jugées, plus encore que les hommes, même si ça se rapproche, sur leur apparence. Et une grosse, c'est une grosse, puis qu'est-ce que tu veux? Pour beaucoup de gens, c'est encore une façon de considérer une femme. Je comprends que des jeunes femmes, particulièrement, qui disent, nous autres, on n'embarquera pas là-dedans. On n'embarquera pas dans ces dictats-là. C'est une chose de vouloir être libre, de pas vouloir se faire imposer par les autres l'image qu'on doit avoir. Mais de là à glorifier l'obésité, moi, j'ai bien de la misère avec ça.
Tu trouves qu'on le fait en ce moment?
Ben, c'est à la mode, c'est à la mode. Puis je ris tout le temps quand je vois des filles super minces, là, comme des clous, là, qui chaque fois qu'ils voient une toutoune ou une grosse fille, là, sont, oh, es-tu merveilleuse? Es-tu extraordinaire? Et ça, c'est de l'hypocrisie.
Tellement.
Parce qu'on sait que pour avoir l'air parfaite et pour l'acceptabilité, ça c'est-tu, non?
Ouais.
Sociale, ça fait bien de dire qu'on aime qu'une fille est toutoune puis que c'est merveilleux.
Qu'elle
s'aime autant puis qu'elle ait autant d'estime de soi. S'il y a des filles qui peuvent développer une véritable, solide estime de soi qui n'est pas du nombrilisme, ni de l'égocentrisme, ni du narcissisme en étant toutoune, bravo à elles. Bravo à elles. Bravo qu'elles aient gagné cette liberté, mais je crois pas que toutes les femmes qui sont rondes ont cette liberté. Je dis pas non plus. Et ce que je dis aussi, c'est qu'il faut pas faire l'apologie de l'obésité. Ça, c'est irresponsable à la limite.
Mais il y a peut-être quelque chose entre les deux.
Oui, ouais, tout à fait.
Et c'est pour ça que je pense que se rabattre sur le facteur santé, c'est une façon aussi de conscientiser nos jeunes en leur disant attention.
Tout à fait.
Parce qu'on est beaucoup sur l'image corporelle. Puis moi, je trouve que c'est correct de dire aux gens, tu peux avoir l'image corporelle que tu veux ou que tu as. Des fois, tu le choisis pas.
Tu as la liberté, puis tu es mieux de t'accepter puis de faire le travail d'estime de soi qui n'est pas un travail de régime. Là. C'est un travail
de... psychologue.
Je suis content que tu dises ça parce que ça revient, ça revient à ça, l'estime de soi.
Mm-hmm.
Si je parle avec cause parce que depuis l'âge de 9 ans environ, j'ai commencé à prendre du poids et j'ai tout fait les régimes. C'est pour ça que je dis que j'ai perdu 1200 livres. Jusqu'à temps que je m'arrête et que je regarde pourquoi tu manges tes émotions, Robert. Pourquoi tu as toujours la main dans le frigidaire? Puis moi, c'est la relation avec l'autre. C'est la relation avec l'autre qui m'a fait peur, qui m'a jugé, qui m'a frappé ou qui m'a... ainsi de suite. Alors, cette raison-là, en m'arrêtant et me regardant, écoutant ce qui est là, c'est là que c'est plus facile pour moi.
Mm-hmm.
Alors, c'est pour ça que je dis ça revient toujours à soi. Oui, on doit faire attention à ce qu'on met dans nos épiceries, de faire attention aux annonces, tout ça. Regardons les gens qui se font couper l'estomac ou attacher. Mm-hmm. 80% de ces personnes-là vont reprendre le poids.
Oui, parce qu'il n'y a pas de suivi.
Ben, il n'y a pas de suivi. Ben, pourquoi il n'y a pas de suivi? Parce qu'en quelque part,
c'est pas de suivi psychologique.
Moi, je suis prêt après. Ben, c'est justement. Mm. Alors, c'est là qu'on doit s'arrêter. C'est là pourquoi que je mange mes émotions. Revenons à la base.
Ouais. On va aller à la pause là-dessus. On va entendre nos auditeurs également pour nous joindre dans la grande région de Montréal. Vous faites le 514-790-9850. Et plus largement, sans frais, 1-866-790-9850. On s'interroge sur cette épidémie d'obésité qui touche le Québec. On peut toujours se consoler, parce qu'on aime ça quand même. C'est pour ça qu'on a une petite dent sucrée, comme ça. Moi, je trouve ça dur en ce moment, là. Hey, moi, j'ai pas la dent sucrée. Puis quand le fret arrive, comme en ce moment, là, je cherche les petits gâteaux. Puis le... Je sais pas, on a comme. Êtes-vous de même, vous autres?
Moi, je te dirais que les femmes. Moi, j'ai pas aimé les choses sucrées jusqu'à 40 ans. Il y a 40 ans, là, ça m'a pogné.
T'es devenue une bébête à sucre?
Ben, quasiment. C'était peurant. Et à chaque décennie, on dirait, c'est de pire en pire. Ça va pas bien.
Non, mais tu sais quoi? C'est documenté, ça, que les populations qui vivent plus au nord ont besoin de plus de calories. Ça remonte. On fera pas l'histoire justement de la préhistoire ou à l'époque des dinosaures, mais c'est documenté qu'on descend de gens qui avaient besoin
cerveau,
d'accumuler de la
cerveau,
graisse.
Là, la connexion c'est cerveau, c'est exact. Plaisir. Alors, plaisir, c'est sûr.
C'est plus que ça. Le sucre, là, c'est antidépresseur.
En plus.
C'est consolateur. Vrai. Le sucre, c'est prouvé. Ben, c'est le sucre, chocolat, des bonbons.
C'est connecté au plaisir.
Il y en a Richard qui est avec nous, qui nous appelle. Écoutez ça, les amis. Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez déjà pesé 600 livres?
Oui. Moi, ben quand je me suis marié, je pesais 200. Et dans ma vie, on parle toujours d'émotion. Dans ma vie, il m'est arrivé un genre de burn-out ou whatever. En tout cas, je suis monté, médication mal contrôlée. En tout cas, je suis monté jusqu'à 600 livres. Et là, j'ai rencontré mon médecin. Mon médecin m'a dit, Richard, c'était des grosses décisions à prendre, toute la quête. Fait que j'ai pris une décision de subir un bypass gastrique. Mm-hmm. Qui a été fantastique. Je suis descendu à 250 après le bypass gastrique.
Ça et ça, c'est wow, 350 livres de moins.
Ben ça, c'est une coupe de sac de pétate, de 100 livres. Hein.
Puis vous enlevez de la peau après?
Après ça, la peau, ça se replace quand tu fais attention. Mais des fois, ça pend, mais c'est pratique. Ça peut aider du monde si jamais je peux t'aider. Mais quand je suis remonté à 300, là, je me maintiens en peu de 300 là, depuis une certaine période. Mais comme j'écoute tout le monde parler depuis tantôt, la famille, oui, la famille, oui, c'est héréditaire, oui, il y a des facteurs, là, c'est oui. Mais j'aime manger. J'ai du fun à manger.
Ouais.
Je fais la cuisine. J'adore faire la cuisine. Je repars recevoir du monde à souper.
Vous êtes un bon vivant.
Ouais. Un bon vivant. Fait que, tu sais, par ma faute seulement. Moi, c'est ce que je considère. Premièrement, je me considère pas beau, je me considère différent. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est.
Et vous vivez bien avec ça?
Ah, moi, je suis très bien.
C'est ça qui est important.
C'est pas le contraire, regarde d'ailleurs. Tu sais, je veux dire, ça me contraint et pas partout. Je suis censé. Au point de vue médical, je ne prends pas de médicaments, je ne prends rien. Je suis suivi au 6 mois. J'ai pas rien vraiment de problème. Je suis changé. Il n'y en a pas dans la famille. Pas de cholestérol, pas de diabète, pas rien de ça. Dans la même, tout est temps. Du côté paquet, comme on appelle, là. Mais je suis chanceux là-dessus. Mais non, je suis, moi, un bon vivant, un bon mangeur, un bon. J'adore ça. C'est
puis vous cuisinez, plaisir. Donc vous ne mangez pas trop d'aliments frelatés.
Oui, oui. Mais en même temps,
ben,
nous sommes mangés.
J'essaie de faire attention, par exemple.
Ouais, ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard. C'est intéressant d'entendre parler de ça, quand même.
C'est
puis lui,
c'est
il
positif.
Vit avec ça. Oui, c'est ça.
Ben, c'est l'acceptation de soi.
Ouais.
Et c'est ce qu'il a fait.
Puis il a fait un grand pas quand même. Il a réduit son poids de moitié.
Il y a du plaisir en faisant la nourriture. Ça aussi, c'est important.
Mais comme toi, Geneviève, toi, c'est ton métier. Tu sais, on te lit, c'est dans Véro. Tu fais une magnifique chronique alimentaire pour nous donner envie de faire des belles recettes.
Puis tout,
puis
là,
je sais que tu manges bien. Depuis les copines d'abord, tu étais notre chef.
Oui, mais j'aime manger, j'aime les aliments, tout ça.
Donc, c'est pas une question de malbouffe, là?
Non. C'est pas une question de malbouffe, mais c'est une question de trop de bouffe.
Ouais, comme
c'est,
faut quand même pas, faut quand même pas. Il y a personne qui engraisse en buvant de l'eau. On va-tu finir par en finir avec ça? Quand on prend du poids, il y a des facteurs hormonaux, il y a l'âge, il y a tout ça. Mais je connais personne, là. D'ailleurs, ce serait une affaire à...
Ouais.
Je ne connais en fait aucune femme qui n'est pas préoccupée, je n'en ai jamais rencontré, par son poids, soit que et à maintenir son poids. Je ne connais aucune femme qui ne fait pas de restriction d'aucune sorte, qui mange ce qu'il veut puis qui a le poids qu'il veut. La fille qui a un poids dit raisonnable et un poids comme toi, qui est plutôt mince, toutes les femmes sont dans cette espèce de presque toutes les femmes, dans cette espèce de contrainte alimentaire. On peut pas manger tout ce qu'on veut quand on veut.
Mais je suis tellement d'accord.
Et
moi, j'ai tout le temps les filles qui disent le contraire. elles disent pas la vérité.
Il y a quelque chose qui marche pas. Bon, s'il est très, très mince, qu'ils disent qu'ils se bourdent, il y en a peut-être 0.004% de la population.
C'est pas drôle, parce qu'on pense à ça tous les jours. Les gars, êtes-vous comme ça aussi?
Oui, on pense à ça tous les jours.
C'est pas drôle, on pense à ça chaque fois qu'on mange.
J'ai le côté féminin bien développé, parce que je pense comme ça aussi.
Fait que finalement, vous êtes aussi en restriction. Êtes-vous toujours en... Vous êtes quasiment obligé parce que vous voulez qu'on... Pas toi, Mathieu, mais Robert, tu veux encore perdre du poids.
Ben oui, j'ai 80 livres à perdre, fait que c'est sûr.
Fait que t'es toujours en restriction alimentaire? Toujours,
pas
t'as toujours ça dans la tête?
Mais je pense constamment. Oui. Tout le temps.
C'est ça la vraie question
même
aussi de la société.
Aussi,
Mathieu, aussi, tu calcules encore tout ce que tu manges?
Ah ben bien sûr. Et... Parce que moi, je suis quelqu'un que jamais j'arrive à la satiété, j'ai toujours faim. Donc, je continue essentiellement à faire pas mal la même affaire que je faisais quand
OK, mais parlez-moi de ça.
Puis Isabelle, écoute.
La notion d'avoir toujours faim.
Écoute bien ça, Isabelle.
Oh, ça vient de les partir. OK. Mathieu, Geneviève, Robert.
C'est simple, j'ai l'impression que je pourrais aller à un buffet puis jamais m'arrêter. Je n'ai jamais cette impression-là d'être plein. Et maintenant, je sais c'est quoi une portion normale, mais il ne faut pas que j'attende de plus avoir faim parce que
Parce que tu aurais toujours faim si tu es comme un puits sans fond, là, tu pourrais manger.
J'ai l'impression, oui.
Les concours de hot dog, là, que tu gagnes.
Je suis pas là, là, les concours de hot dog.
Tu n'as plus faim, mais tu continues de manger.
Pourquoi? Parce que quand on a fait plusieurs régimes dans sa vie, j'ai fait le premier à 16 ans. Quand on fait plusieurs régimes dans sa vie, on sait plus ce que c'est avoir faim, pas avoir faim. Moi, je peux, pendant une journée, ne pas manger et je n'aurai pas faim. Dans ma vie de fille de régime, je sais que je peux faire ça. Puis, le lendemain, je peux me lever ou dans 6 jours après et me mettre à penser qu'à ça. Et particulièrement si le matin, admettons, je mange un croissant ou un truc un peu sucré, c'est fini, nanani. Jusqu'au soir, j'ai l'impression que je vais être un puits sans fond, mais je peux passer des journées sans manger et ne pas avoir l'impression d'avoir faim. Donc, les régimes à répétition, ce que ça fait c'est que ça, j'allais dire un mot avec un F, là, c'est pas le bon mot.
Ça fuck tout. On peut le dire au 98.5.
Ça fuck tout ton système de satiété. Il faut le dire aussi. Donc, il faut faire très attention quand on commence à faire des régimes jeunes. Parce qu'après ça, on n'est plus jamais pareil.
Oui, tout à fait. Robert, toi, es-tu comme ça aussi, la notion de satiété?
Tandis qu'on est rendu dans ces mots-là, moi, j'étais comme une vache. Tu sais, j'ai 7 estomacs, il n'y a plus de faim. Mais j'ai jamais faim. Parce que je mangeais toujours avant d'avoir faim. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, je mange 5 repas par jour. 5, mais diminué, plus petit. Qui fait en sorte que c'est plus équilibré.
Ouais.
Et j'ai fait, comme je disais tantôt, Isabelle, tu sais, puis là, je me mets à nu devant vous tous. Hier soir, on a eu juste même une discussion avec mon fils. Tu sais, mon fils veut pas. Gabriel, il voit son père qui est son idole, tout ça, et il mange ses émotions.
Ouais.
Et ça, il y a 13 ans, puis ça le préoccupe.
Qu'est-ce qu'il te dit, ton fils?
Ben là, tu sais, il fait du karting, puis là, il a grandi. Et là, il y a une trentaine de livres de trop. Parce que, premièrement, il est costaud, il est massif, et ça le dérange. En quelque part, OK, Robert Savoie, c'est toi, tu dois te regarder, parce que c'est toi le parent. Et c'est toi qui éduques ton enfant dans cette dimension-là.
Qu'est-ce que tu dis à ton fils qui a 30 ans?
J'ai même pas besoin d'y dire rien, juste me voir aller, de la façon que je parle.
Mais donc,
il me voit, il m'entend. Alors, c'est sûr que lui a pris mes plis, a pris mes façons de faire. Là. Alors, il est rendu que lui aussi veut faire attention, puis il veut bien s'alimenter, puis c'est pas facile. Puis
mais donc, il rentre dans le combat, là?
Il est dans le combat. 13 ans. Mais c'est je suis dans le domaine du mieux-être. Ma femme est thérapeute en relation d'aide.
Ouais.
On est dans le mieux-être, les deux. Mais...
Tu te sens-tu coupable de ça? T'as-tu l'impression d'être un mauvais père?
Pas un mauvais père.
Un mauvais exemple là-dessus.
C'est ça, j'ai fait le travail là-dessus. Si tu parles de culpabilité, s'il y a quelqu'un qui porte la culpabilité, c'est bien moi. Et quand on est obèse, on porte la culpabilité. Comme je te disais tantôt, Isabelle, j'allais m'asseoir, tu sais, mes premières années, là, que je faisais attention dans les bureaux, sans nommer de nom. Et la personne me disait, ben là, Robert, faut que tu manges comme du monde. Tu sais quoi manger? Oui, je sais quoi manger. Je préfère un entraîneur professionnel. Je préfère un diététicien. Mmh. Je le sais. Mais si je m'assois en face d'une personne qui est là, qui est une autorité pour moi, puis qu'elle me dit des choses comme ça, c'est sûr que ça m'amène dans la culpabilité, dans l'humiliation, et ça fait en sorte que la semaine après,
dans le frigo.
Je retournerai pas.
Ah ouais, c'est
si
ça.
J'ai pas bien mangé, je retournerai pas.
Ouais.
Alors l'écoute de l'autre, quand on a des spécialistes en face de soi, ben c'est important que ces gens-là puissent apprendre à écouter le patient qui est en avant de lui.
Ouais.
pour l'accompagner là-dedans, ouais. Parce que s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est là que la personne s'isole et dans cet isolement-là, on s'en va dans le plus tard.
C'est ouais. Ça, où, tous les trois, tout à l'heure, vous me disiez pendant la pause, vous êtes tout isolés chacun à votre façon au cours de la vie là, dans ce combat contre l'obésité.
Moi, je lutte contre ça. Je lutte beaucoup contre ça.
On revient tout de suite après. On parle d'alimentation, mais surtout, on parle de poids. Et ben ça tombe mal parce qu'aujourd'hui, il paraît qu'il faut pas en parler, en tout cas sur les médias sociaux. Il y a une campagne en ce moment là, sur l'apparence physique, le poids. C'est vrai que sur les médias sociaux, c'est une plaie parce que beaucoup d'adolescents et d'adolescentes surtout là, qui sont rivés à leur téléphone intelligent tous les jours. Je sais pas si le téléphone est intelligent, mais des fois, il s'y écrit des choses pas très intelligentes. Et entre autres, sur le poids, les gens jugent beaucoup. Et c'est pour ça qu'on parle
de
culpabilité. Oui. On parle de culpabilité, on parle d'isolement avec vous, puis vous êtes des adultes. Oui. Imaginez les jeunes, là, comment ils vivent ça, puis que ça doit être pesant.
Isabelle, si je reviens à ce que je disais
à ton fils de 13
Gabriel,
ans,
je
ben
peux
oui.
bien dire, Gabriel, là, il est temps que tu bouges un peu plus.
Mais non.
Il faut que j'y montre l'exemple. Fait, comme ouais. je disais, c'est le matin, moi, la première chose que je fais en me ouais. levant, ben, moi, ma conjointe et Gabriel, c'est la première chose qu'on fait. On s'en va au gym. Ouais. Pour moi, c'est ma façon. On fait 60 minutes. Quand je commence de cette façon-là,
ouais.
après ça, dans la journée, c'est plus facile pour ouais. moi. Ça, c'est ma
parce
façon
que
de faire. C'est un moyen
plus.
De protection.
C'est ta façon d'avoir de l'estime de toi.
C'est un moyen de protection que je mets en place ouais. pour arriver par la suite, pour arriver à être capable de bien me nourrir.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est une
mais,
façon
mais je trouve
que c'est
intéressant
ça
quand même, la notion de dire hashtag le poids sans commentaire. Ça veut dire, faites pas de commentaires sur le poids de quelqu'un à cette personne-là. Quand même qu'on vous dirait, là, à vous trois, là, mon Dieu, fais attention à ce qu'on
Isabelle,
te mange.
Je ne peux pas t'imaginer et... comment est-ce que ça peut blesser.
Ben oui.
Okay? Comme, encore une fois, là, 3 ans passés, je suis rentré dans mon bureau ouais. de médecin. Mon médecin, un spécialiste, là.
Qui te dit quoi?
Il dit, là, il est temps que tu manges comme du monde puis que tu fasses de l'exercice. Et j'ai dit, écoute, bien, je ne dirai pas son nom parce que je l'aime beaucoup, mais j'ai dit, écoute, si tu savais ce que tu viens de dire, uh-huh. comment est-ce que tu me réveilles dans l'humiliation, tu ne peux pas t'imaginer.
Parce
que j'étais capable
ça.
De le dire.
Ouais,
mais ouais. quelqu'un qui n'est pas capable de le dire, imagine-toi quand tu sors du médecin ouais, ouais. ou la personne qui dit quelque chose comme ça.
Ben, moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à m'entraîner en même temps, puis je trouvais ça même très difficile. Ça a été une grosse épreuve juste d'aller au gym parce que, uh-huh. parce que je ne voulais pas être le gros sur un bicycle ou sur un tapis roulant qui fait du sport. J'avais beaucoup de mal avec les gens qui vont au gym en général.
Ouais.
Pour moi, le gym, c'était l'affaire que tout le monde prend son abonnement, puis quelques mois après, il ne va plus jamais. Je voulais pas être une de ces personnes-là, puis ben, maintenant, je suis pas mal une de ces personnes-là, puis ça fait 2 ans, puis j'ai jamais arrêté, puis j'en raffole.
On a René avec nous. Bonjour, René.
Bonjour.
On vous
moi,
écoute.
Moi, je suis camionneur.
Oui. Ah.
Moi, je suis camionneur.
Oh. Mm-hmm.
Puis, J'ai perdu du poids, j'ai perdu 85 livres en 1 an.
Wow.
À cause d'un cancer aussi, là, qui m'a fait réveiller
ouais.
un petit peu l'esprit.
Aïe, aïe, aïe.
Depuis 1 an, je fais attention à mon alimentation. À cette heure-là, je m'amène des lunchs. Et puis, je m'amène des carottes, n'importe quoi, des fruits, des légumes. Puis, une fois par jour, je mange un bon repas le soir. Puis, j'ai perdu 85 livres de même. Puis, pour moi, ça a voulu la peine de me priver de beaucoup de viande.
Ah, c'est ça, vous avez coupé la viande, hein, entre autres. Ouais. Puis sans doute, le fast-food sur les autoroutes, les camionnages, c'est pas facile là, pour vous autres.
Bien, il en a un bon point. Il en a un bon point. Le bon point, c'est qu'il prépare ses choses maintenant. Il amène ses légumes. C'est un autre point, ça aussi.
Ouais.
Ça lui a pris un cancer, oui. C'est plate que ça arrive à ce moment-là attendre à ce moment-là pour se prendre en main.
Moi, quand j'ai commencé, il y a 2 conseils qu'on m'a donné. Le premier, c'était de ne pas boire ses calories. Puis le deuxième, c'était si tu ne sais pas quoi manger, mange des plantes, donc des fruits ou des légumes. Puis, ça m'a quand même aidé.
Mais ça demande une petite organisation quand même, il faut
c'est
le dire.
Il ouais.
faut sortir bien, de son train-train quotidien. Quand on veut faire attention. Oui, parce que les légumes puis les fruits, là, tout seul de même, là, des céleri dans le frigidaire, puis 3-4 carottes. Là,
mais ça ne mange pas non plus.
Tu ne mangeras pas. Ça te prend. Il faut que tu te mettes dans un mode, là.
Ben, c'est la discipline, puis c'est nous, on fait les boîtes à lunch. Ma conjointe est expert là-dedans, elle fait des boîtes à lunch, c'est ça qu'on mange aujourd'hui, et on prépare tout d'avance. Parce que si on ne fait pas ça de cette façon-là, dans mon cas, à moi, c'est plus facile de m'en aller à des endroits que fast-food.
Et je dirais aussi que si on n'a pas de problème de santé, puis si on... ce qui est possible, mais qui m'étonnerait, là, quand on est vraiment overweight, là, on peut aussi se foutre la paix, puis dire, moi, là, je suis rendu à tel âge, là. Puis je suis bien tannée de ça. Je suis tannée de faire des régimes. Je suis tannée de m'en prendre à moi-même. Je suis tannée de me culpabiliser. Puis je dis que le diable emporte le reste. Puis je vais essayer d'être le plus heureuse possible avec ce que je suis. Je te dis pas que moi, je suis rendue là. Je suis pas rendue là. Et ça sera une quête de toute la vie, puis une quête importante.
Ouais.
Parce que je pensais aussi à un livre que j'avais lu, qui était une conseillère politique, je pense, de Hillary Clinton, femme à Washington, qui avait une super grosse job, qui avait eu plein d'accomplissements,
mm-hmm.
et qui un jour avait fini par perdre du poids, avait dit, dans toute ma vie, malgré tous mes autres accomplissements, les études que j'ai faites, les jobs que j'ai occupés, la chose qui m'a le plus rendue heureuse, c'est de régler ma question de poids.
Mmh.
C'est pas une petite affaire.
Dieu, c'est ça qu'elle avait dit.
Oui, wow. C'était pas une totoche, là. C'était pas une.
Ouais.
C'était une femme accomplie, là.
Oui. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est un vrai problème dans la vie, là.
Puis c'est pas juste l'affaire du regard des, autres.
Ça rend très malheureux. Merci beaucoup à tous les trois. Merci bien. Merci. On aura sans doute l'occasion de rediscuter de tout ça, c'est sûr. Merci bien. On se retrouve après les nouvelles. On va parler de nos communications avec nos proche décédé.
Bien fait.